Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Sophie Tussaud.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
7h sur Europe 1, très bon dimanche à tous.
Je vous souhaite que le 1er mai 2022, je puisse revenir vous voir comme président de la République, ayant rétabli les 35 heures, ayant rétabli la retraite à 60 ans.
Un 1er mai syndical hier, mais également très politique et qui a marqué le coup d'envoi de la campagne pour la présidentielle de 2022.
Avant la présidentielle, il y aura les régionales fin juin avec un protocole sanitaire strict. Les mairies sont en quête d'assesseurs. Reportage à suivre dans le sud de la France.
Un gros plan également dans ce journal sur le rétrofit, une technique qui permet de modifier son véhicule thermique en véhicule électrique et qui est homologué par l'État.
Et puis des supporters girondins bien décidés à défendre leur club de foot. Ils vont une nouvelle fois manifester aujourd'hui.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Hier, le 1er mai a été marqué par des manifestations partout en France, mais il a donné également le top départ de la bataille pour la présidentielle.
Un an du scrutin, les candidats ont profité de la journée pour avancer leur pion. Retour sur un début de campagne avec Hélène Terzian.
La première image est symbolique, le message on ne peut plus clair. Au pied de la statue de Jeanne d'Arc, Marine Le Pen part à l'assaut de la présidentielle.
Si Emmanuel Macron, pour le plus grand malheur de la France, était amené à effectuer un deuxième mandat, le chaos serait absolument général. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincue que je serai élue présidente de la République.
Deuxième photo avec les Verts dans le cortège parisien du 1er mai. Leur chef de file, Julien Bayou, tête de liste en Ile-de-France, compte sur les régionales pour rêver plus grand.
C'est le moment où on peut mettre l'écologie au premier plan. J'ai bon espoir que c'est l'écologie, le moteur des victoires à venir.
Troisième image, Jean-Luc Mélenchon qui fait cavalier seul à Lille. Le chef des Insoumis évite les autres poids lourds de la gauche et préfère s'adresser à ses militants.
Je vous souhaite que le 1er mai 2022, je puisse revenir vous voir comme président de la République, ayant rétabli les 8 heures de travail, ayant rétabli les 35 heures, ayant rétabli la retraite à 60 ans.
Les premières cartes postales des candidats sont envoyées, à voir comment elles seront réceptionnées dans les prochains sondages et d'ici un an dans les urnes.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1 est dans un entretien au JDD. Anne Hidalgo indique qu'elle prendra sa décision pour la présidentielle à l'automne. Elle a même de Paris qui n'est pas favorable à une primaire pour désigner le candidat de la gauche.
Et rendez-vous politique tout à l'heure à 10h avec Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Michaël Darmon nous en parle juste après votre journal. Outre l'aspect politique de ce 1er mai, la journée était également évidemment syndicale avec de nombreux rassemblements. 170 000 manifestants partout en France selon la CGT. Plus de 106 000 selon Beauvau, dont 17 000 à Paris.
Et des incidents ont éclaté, notamment dans la capitale où 46 personnes ont été interpellées. Partout dans le pays avaient été déployés les élis, les équipes de liaison et d'information, des policiers en civil formés spécialement pour le dialogue et pour faire le lien entre les manifestants et les forces de l'ordre et également limiter les débordements. Benjamin Peter a suivi une de ces équipes dans la manifestation à Toulouse.
C'est la première fois que je vois ces brassards-là.
Ce n'est que la quatrième manifestation que les élis sont sur le terrain. Alors le brassard bleu ciel de Bruno et ses collègues intrigue encore.
Nous on est là pour faire en sorte que tout se passe bien. On est en liaison entre les organisateurs et les manifestants et nos collègues font de l'ordre.
Très bien.
Deux à l'avant du cortège, deux à l'arrière, venus d'unités différentes, tous volontaires. Ils ont été spécialement formés, notamment à prendre contact avec les manifestants, comme avec Alexis du service d'ordre du Parti communiste.
S'il y avait un problème, nous on fait pas peur, on attend.
À ce moment-là, il ne faut pas hésiter de venir nous voir.
Ah non, mais nous, il n'y a pas de problème avec ça.
Que nos collègues sachent ce qui se passe.
Des manifestations qui partent en live, ça ne nous intéresse pas.
Exactement.
Le dialogue s'installe vite, certains viennent leur signaler des groupes à risque. Pour le directeur de la sécurité publique, Jean-Cyril Raymond, il s'agit de désamorcer au plus vite les tensions.
L'objectif, c'est que la situation ne dégénère pas. Et si on en arrive là, dès lors que l'action de maintien de l'ordre a eu lieu, le but, c'est ensuite de faire de ce qu'on appelle de la désescalade, de faire en sorte que la tension, à nouveau, s'apaise le plus rapidement possible.
Et au final, cette manifestation, qui a réuni près de 4000 personnes, n'a donné lieu qu'à quelques incidents en marge. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
On vous en parlait hier sur Europe 1, la vaccination est désormais élargie à 4 millions d'adultes atteints de maladies chroniques.
Parmi eux, les personnes atteintes d'obésité comme Nathalie, 52 ans, qui va pouvoir retrouver un peu de liberté.
Clairement, sans le vaccin, j'étais vraiment sur mes gardes. Je m'interdisais, et je m'interdis encore parce que j'attendrai la deuxième dose, de prendre mes enfants dans les bras. J'ai plus de vie sociale. Ça fait pratiquement un an que je suis en télétravail, ultra connectée, presque addicte maintenant au travail. Et en plus, j'ai perdu une cousine il n'y a pas longtemps, qui avait 49 ans de la Covid. Donc ça fait réfléchir. Et comme j'ai de l'hypertension et que je suis en surpoids, j'ai vu avec mon médecin et c'est fait. Ça, je suis vraiment soulagée. Je suis bien contente.
Un témoignage recueilli par Marion Gauthier. À noter que la vaccination sera ouverte à tous les adultes de plus de 18 ans sans restriction, et ce, dès le 15 juin.
7h04, la réponse positive de la majorité aux Républicains en vue des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud. Il y aura bien une alliance.
Ouais, à la suite de la proposition cette semaine de Renaud Muselier, le président sortant de la région, Jean Castex, annonce au JDD le retrait de la liste La République en marche dans la région sud. Des scrutins qui se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Et pour leur bon déroulement, l'exécutif a fait le choix d'un protocole sanitaire strict. Il demande aux municipalités d'organiser la vaccination de tous les personnels qui assureront la tenue des bureaux de vote. Des municipalités donc qui s'organisent, comme dans le sud-est de la France. Frédéric Michel.
Recherche volontaire pour tenir bureau de vote. À Brignoles, dans le Var, depuis l'annonce du maintien des élections, la municipalité s'organise. Il faut trouver au moins 4 personnes par bureau, des fonctionnaires et conseillers municipaux. Et malgré le virus qui court toujours, le maire de Brignoles, Didier Brémond, est confiant.
Nous, on trouvera. Aujourd'hui, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Et avec les masques, le gel, la distanciation, non, je pense qu'on va arriver à l'assesseur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le vrai sujet, c'est le protocole que va nous demander l'État.
Pour tenir ces bureaux de vote, le ministère de l'Intérieur a demandé au maire que soit d'abord sollicité les personnes vaccinées ou de prévoir en priorité leur vaccination en programmant d'ici aux élections les 2 injections.
Il nous reste peu de temps, mais déjà qu'on en a fait une. Alors on va essayer d'en faire un maximum pour la deuxième, mais par exemple sur le Pfizer, on est à 6 semaines. Ça se complique déjà, on est aujourd'hui à 6 semaines des élections.
À Mougins, ni bulletin ni enveloppe dans les 16 bureaux de vote. Tout se fait sur un petit boîtier désinfecté à chaque passage. Richard Galli, le maire.
Les machines à voter nous permettent d'assurer la plus grande sécurité possible, d'économiser énormément de personnel pour la mise en place, pour le dépouillement. Donc beaucoup moins de risques de frapper quoi que ce soit. Parce que moins de monde. Les bureaux ferment à 20h. À 20h15, on a tous les résultats de toute la commune.
Évitant ainsi de longues minutes d'attente et la tentation d'accolade et d'embrassade.
Frédéric Michel.
Hier, 236 migrants ont été secourus en mer Méditerranée par l'Ocean Viking. Ils ont été débarqués en Sicile.
Et cette semaine, c'est une embarcation qui a chaviré au large de la Libye. Le pape a même parlé du moment de la honte. Leur appel à l'aide avait été relayé par une ONG, mais les gardes-côtes libyens censés secourir les embarcations en péril n'ont jamais répondu. Preuve que le système actuel ne fonctionne pas, c'est ce que dénonce l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta.
C'est un système qui ne marche pas. Je pense qu'il faut complètement changer l'approche, c'est-à-dire la même détermination qu'on a mise avec le plan de relance européen. Il faut la mettre sur la question migratoire, sur les relocalisations, sur la relation avec les pays tiers, sur la harmonisation du welfare des pays d'accueil et naturellement aussi sur l'activité de sauvetage en mer qui ne peut pas être laissée seulement aux ONG. Je pense que c'est un sujet majeur. Le droit international de la mer intervient aussi à nous dire qu'on ne peut pas laisser tout ça sans réponse.
L'ancien Premier ministre italien Enrico Letta sera l'invité des Carnets du Monde avec Sophie Larmoyer tout à l'heure à partir de 13h sur Europe 1.
7h08, tout autre chose. Est-ce que vous connaissez, Sophie, le rétrofit ?
Eh bien alors, je ne le connaissais pas, maintenant je le connais.
C'est une technique qui permet de transformer votre voiture thermique, qu'elle soit essence ou diesel, en voiture électrique.
Oui, effectivement, c'est une pratique autorisée par la loi depuis maintenant 1 an et pour laquelle on peut bénéficier d'une prime à la conversion. De plus en plus d'automobilistes ou d'entreprises sont prêts à sauter le pas. Seul X cela prend beaucoup de temps avant d'arriver à l'homologation. Aurélien Fleureau.
Mettre du neuf dans une vieille voiture, que ce soit une Peugeot 504 ou une Twingo plus récente, l'objectif est simple, faire baisser les émissions de CO2 tout en gardant son véhicule, explique Arnaud Pigounides, fondateur de l'entreprise Rétrofutur.
Tout véhicule aujourd'hui qui a plus de 5 ans peut être transformé en électrique et surtout en fait on croule sous les demandes. Pas que dans la voiture ancienne, mais surtout sur les utilitaires, tout ce qui va rouler dans les villes. On est vraiment dans un moment charnière. On se rend compte que les entrepreneurs, les flottes, les grands groupes, les particuliers ont envie de transformer leurs véhicules.
Le rétrofit pour être sûr de pouvoir circuler dans les zones à faible émission, mais aussi pour du tourisme, c'est le projet de Nicolas Gumi. Il a créé Bloom Camper à Vannes et est en train de transformer de vieux combi Volkswagen.
On vise des territoires, par exemple, comme les îles, partir sur Belle-Île en Bretagne en combi électrique mythique. Et on vise également des voyages régionaux. Vous arrivez en train dans une ville, vous louez votre combi sur place et vous allez faire votre tour de Bretagne avec un combi électrique.
Les premiers seront sur la route début 2022 pour garantir une sécurité maximale. La période d'homologation prend encore plusieurs mois. L'objectif, c'est de convertir 3% du parc automobile en 10 ans, soit plus d'1 million de véhicules.
Aurélien Fleureau.
Il reste qu'on met du vieux dans du neuf ou du neuf dans du vieux. Hein. Enfin, on continue à parler moteur, ma chère Sophie, avec le Grand Prix de Formule 1 qui se tient cet après-midi au Portugal. Le Finlandais Valtteri Bottas sur Mercedes signe sa première pole position de la saison.
La Formule 1 qui accueillera dans le cadre du calendrier de déconfinement fin juin 45 000 spectateurs sur 3 jours en France. Éric Boulier, le directeur général du Grand Prix de France, nous explique comment se déroulera l'accueil des spectateurs.
Chaque jour, on pourra avoir jusqu'à 15 000 spectateurs dans 3 zones complètement étanches de 5 000 spectateurs. Et en même temps, on fait en sorte que les flux entre les 3 bulles ne se croisent jamais. On va attendre la confirmation du gouvernement et de la préfecture. Mais on a l'avantage d'avoir un site immense hein, de près de 150 hectares. Donc on peut se permettre effectivement d'avoir 3 zones de 5 000 spectateurs complètement étanches. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire. Ça sera une belle fête dans le sens où ça pourrait être là, le premier événement où on peut avoir autant de spectateurs. Et enfin, recommencer à vivre.
Éric Boulier, directeur général du Grand Prix de France, au micro européen d'Axel May.
Le sport avec le foot et les Girondins de Bordeaux dans la tourmente financière. D'abord, depuis que King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire du club, a décidé de se désengager totalement brutalement, il faut le dire.
Oui, hier, la mairie de Bordeaux a annoncé la constitution d'un comité de soutien et de vigilance. Trouver un repreneur est bien sûr essentiel. Stéphane Place, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région. Et après un premier rassemblement le week-end dernier, les supporters de Bordeaux en prévoient un second aujourd'hui.
Oui, en fin de matinée, ses supporters appellent à une mobilisation générale à l'occasion de ce match qui va opposer les Girondins à Rennes. D'abord pour accompagner le bus des joueurs, ensuite suivre la rencontre, alors certes devant le stade, hein, crise sanitaire oblige, mais près de l'équipe bordelaise qui doit assurer son maintien. C'est la première urgence, souligne le porte-parole des Ultramarines, Florian Brunet.
Qui est véritablement une union sacrée autour de l'équipe. Ça serait une catastrophe sportive, industrielle, historique, que les Girondins descendent. Et il reste 4 matchs pour se sauver et donc il faut qu'ils sentent derrière eux toute l'attente de tous les gens qui aiment les Girondins.
Très impliqué dans le sauvetage du club bordelais, l'ancien international Alain Giresse attend un vrai sursaut d'orgueil des Girondins, 16e au classement général.
Ah, le problème sera évidemment complètement différent si c'est le cas d'une descente en Ligue 2. Et les données seront plus les mêmes pour les repreneurs, bien sûr. Donc ça, c'est primordial. Personne n'a y gagné si la situation sportive devient catastrophique. Je serai joueur, j'aurai la rage, la rogne, quand ça va pas, quoi. En compétiteur, il faut affronter les difficultés. Il faut pas avoir peur, il faut pas rester petit bras.
Une équipe bordelaise plus que jamais sous pression après avoir encaissé sa 5e défaite d'affilée contre Lorient le week-end dernier.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Un Bordeaux qui reçoit Rennes tout à l'heure à 13h dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Et justement, dans le cadre de cette journée, Lille garde la tête du classement après sa victoire 2-0 sur Nice hier. Les nordistes qui sont talonnés à 1 point par le PSG qui s'est imposé 2-1 face à Lens.
Merci Sophie, à tout à l'heure pour le journal de 8h et un dossier spécial tourisme.